Bien, nous allons reprendre nos travaux. Donc, nous déplaçons géographiquement avec donc deux contributions. La première, donc celle de Madame Gaïa Thomas Zoli, de l'Université de Paris 3. Sans bonne nouvelle, c'est marqué sur le PowerPoint, c'est super. Donc, il va nous parler donc du prophétisme et du mythe impérial chez Pétrarque. Vous avez donc 30 minutes.
Merci beaucoup et merci à tous d'être là aujourd'hui. Je tiens à remercier, avant de commencer, les organisateurs qui m'ont offert la possibilité de présenter mes recherches dans un lieu si prestigieux. Et les considérations que je vous présente aujourd'hui ne constituent que la première étape, en réalité, d'une recherche que je souhaiterais mener plus en détail dans le futur. Et donc, elles n'ont pas du tout la prétention d'être exhaustives. Mon but principal est d'interroger la culture médiévale de Pétrarque et notamment ses rapports avec la littérature prophétique et les possibles influences de cette dernière sur sa pensée politique. Tout le monde connaît en fait Pétrarque en tant qu'humaniste, lecteur de classiques et précurseur d'une antériorité qu'on considère aujourd'hui moderne. Et pourtant, sans vouloir dévaloriser les caractères novateurs de sa redécouverte de classique, il faut bien tenir compte du fait que Pétrarque était, à bien des égards, un homme entre deux mots, comme il le dit lui-même. Donc, parmi ces lectures, on doit imaginer qu'à côté des textes classiques, deux œuvres plus proches trouvaient sans aucun doute une place, même s'il était toujours prêt à faire montre de ses sources anciennes et à cacher, au contraire, celles plus récentes. Exemplaire sur ces points, son rapport avec Dante, dont l'influence tout à fait décisive est résolument niée à plusieurs reprises par Pétrarque. Or, il me semble que l'usage et l'influence des textes plus récents, à l'exception de Dante, restent encore largement à explorer. L'autre préjugé majeur concernant l'écriture de Pétrarque a été par contre déconstruit plus fréquemment. Alors que De Sanctis opposait Dante avec ses brûlantes passions civiques à Pétrarque, considéré comme un intellectuel replié sur lui-même et orgueilleusement isolé, on est maintenant mieux au courant de son intense activité politique et diplomatique, menée en premier lieu à travers son immense réseau épistolaire, mais aussi de façon directe. Et en effet, on sait aujourd'hui qu'aucun intellectuel, comme l'a souligné récemment Enrico Fenzi, n'a jamais eu une expérience directe du pouvoir plus variée que celle de Pétrarque, qui a noué des liens très étroits avec la cour pontificale à Avignon, celle des Angevins à Naples, mais aussi celle de plusieurs seigneuries, telles que Padoue et Milan, la République de Gênes et Venise, et finalement avec la Rome de Caladerienzo et l'Empire de Charles IV. Mais tandis qu'on connaît très bien la théorie politique, par exemple, de Dante, expliquée dans sa monarchie, Pétrarque n'a jamais abordé ces sujets de manière rigoureuse et systématique. En outre, comme sa biographie est si dense d'événements et de protecteurs, et comme son approche à l'écriture est marquée par un contrôle obsessif de l'image de soi qu'il offrit aux autres, il est vraiment très difficile de saisir sa pensée politique. À cause de cela, Pétrarque a souvent été accusé d'opportunisme, voire d'incohérence dans ses relations politiques. Dans tous ces cadres, le seul point qui est toujours bien présent dans les études sur Pétrarque politique est l'importance centrale de Rome. La Rome de Pétrarque est sans aucun doute la Rome impériale, et l'appréciation à l'égard de celle-ci est essentiellement redevable à la littérature latine. Toutefois, il est vrai que cette image de Rome s'était mêlée dans les siècles précédents avec une littérature prophétique spécifiquement médiévale, qui avait connu son apogée au XIIIe siècle lors du conflit entre Frédéric II et le pape de Rome. L'hypothèse que je vous présente aujourd'hui est donc liée à ces derniers aspects. Je voudrais plus précisément montrer que dans la conception de la souveraineté de Pétrarque, on peut repérer des traces d'un prophétisme impérial et que celui-ci est appliqué seulement dans une dernière phase à l'empereur, alors qu'elle était précédemment impliquée dans un discours monarchique et puis républicain. Pour commencer, il faut dire que Robert d'Anjou a fait l'objet de louanges de Pétrarque déjà à partir de 1325 ou 26, date de composition de l'épître familière 1-2. Okay. Dans cette lettre, Pétrarque écrit que Virgile, en dépit de ses détracteurs, pouvait garder sa propre assurance grâce à la confiance que lui faisait Auguste. Mais dès nos jours, du Pétrarque, il n'y a qu'un roi capable de juger les talents littéraires, et c'est Robert d'Anjou, unique gloire de notre époque. À ces moments, Robert venait de rentrer à Naples après un long séjour en Provence, et il était en train de s'entourer d'intellectuels. Dans un premier moment, Pétrarque n'arriva pas à attirer l'attention de Robert et il s'est mis au service de Colonna. Mais en 1341, grâce à la médiation de son ami Dionigi da Borgo Sansepolcro, Pétrarque débarque finalement à Naples en compagnie de Azzo da Correggio. Robert le nomme clerc et familière de cour et il examine le poète pour favoriser son couronnement poétique à Rome. Pendant cette première visite, Robert le mène aussi voir le fresque de Giotto dans la chapelle de Castelnuovo et probablement l'église de Santa Chiara, qui venait d'être inaugurée, peinte par Giotto lui-même avec des sujets apocalyptiques. Les deux, ils font ensuite un premier tour de lieux décrits par Virgile, que Pétrarque visita à nouveau 2 ans après lors de son second séjour à Naples. Dans la familière 4-7, adressée à Robert d'Anjou peu après son couronnement poétique à Rome, Pétrarque n'hésite pas à comparer les rois angevins avec Auguste. « Il est le meilleur des rois et le plus grand des philosophes et des poètes, dit-il, et comme Auguste, il emploie toutes ses forces afin de favoriser les talents de son époque. » Dans une épître précédente à Dionigi di Borgo Sansepolcro, Pétrarque affirmait aussi qu'aucun roi, en Italie et même en Europe, n'était plus illustre que Robert, et qu'il admirait non seulement sa manière d'exercer les pouvoirs, mais aussi ses mœurs, son âme libérée des passions. La première lettre qu'il envoie à Robert s'ouvre avec la déclaration frappante qu'un éclat inhabituel avait frappé les yeux de Pétrarque au moment de leur première rencontre. Donc avec une dimension tout à fait messianique, en quelque sorte. Pourquoi Pétrarque a-t-il été un admirateur si passionné de Robert? On peut penser que ce n'était que pour opportunisme, ou tout au plus qu'il lui était reconnaissant pour avoir favorisé son couronnement poétique. Mais, comme l'a suggéré récemment Keith Vetter, Robert est une figure centrale pour Pétrarque en tant que roi descendant de la ligne des Capétiens, parfaite symbiose des Roms et des Paris, de monde ancien et de monde moderne, et pour cela digne de succéder aux empereurs de l'Antiquité. En plus, Robert, il était roi de Jérusalem, et il pouvait même incarner l'image d'un roi français qui aurait aidé le premier des 4 papes angéliques à mettre fin au schisme, pour assurer le rôle d'empereur franciscain, comme le disaient certains parmi ses contemporains. Et en fait, Robert, comme sa femme, la reine Sancha, et Philippe de Majorque, le frère de cette dernière, avaient très probablement abrité dans son royaume les spirituels persécutés par les papes. On sait que dans sa jeunesse, il avait même reçu une lettre de Pierre de Jean Aulieu. On sait que son frère Louis avait abandonné la couronne pour prendre le vœu des ordres mineurs et que Robert lui-même était en contact avec Ange Clareno et Arnaud de Villeneuve, probablement. L'église de Santa Chiara, où Robert et Sancha furent enterrés, accueillait des fraticelles et était décorée avec une iconographie d'inspiration joachimite. Selon Catherine Bruselius, l'architecture même de l'église était inspirée par la théorie des 7 âges de Joachim de Flore. Donc Pétrarque, il n'ignorait certainement pas ses penchants de Robert, qui loue souvent en tant que savant exégète des Écritures. Mais par contre, l'attitude de Pétrarque à l'égard de mendiants, et des spirituels en particulier, n'était pas très positive. Après la mort de Robert, Pétrarque décrit l'état pénible de la cour angevine dans une épître à Giovanni Colonna. Les personnages sur lesquels il se concentre est Robert de Mileto, un fratricelle qui jouissait, selon Pétrarque, des faveurs de la reine Giovanna. J'ai vu un effroyable animal à 3 pieds. Nu pied, nu tête, orgueilleux de sa pauvreté, engourdi par le plaisir. un pauvre homme chauve et rouge, aux fesses énormes, à peine couvert d'un pauvre manteau qui laissait exprès à découvert une bonne partie de son corps. Et dans cet accoutrement, il méprisait avec une extrême insolence, comme du haut de sa sainteté, non seulement tes paroles, mais celles aussi du pontife romain. À la place du sérénissime Robert, qui était roi il n'y a pas longtemps et l'unique gloire de notre époque, s'est levé ce vieux Robert qui en sera la honte éternelle. Je veux bien désormais croire que puisse naître un serpent des entrailles d'un homme mis au tombeau, du moment que du tombeau d'un roi est sorti ce sinistre aspic. Donc en dépit de ces mots virulents, il faut néanmoins souligner que Pétrarque n'était pas complètement hostile aux franciscains. Pendant toute sa vie, il a déclaré qu'il voulait être enterré dans un lieu franciscain, par exemple. Mais les rapports de Pétrarque avec les franciscanismes n'ont jamais fait l'objet d'une étude détaillée, ce qui est dommage parce qu'il y a probablement pas mal de choses à trouver. De toute façon, la version pour Robert de Mileto fait probablement partie d'une critique plus générale à l'égard de la décadence de Naples après la mort de Robert. Dans une autre épître, par exemple, Pétrarque se concentre de manière plus détaillée sur ces points et il ne mentionne même pas Robert de Mileto. Tout le discours sur la mort de Robert d'Anjou est lié dans le texte de Pétrarque au prophétisme. Les poètes avaient été en quelque sorte conscients de la ruine que sa mort aurait fait éclater. Ce que j'appréhendais est arrivé, ce que je craignais, je le subis. Combien je redoute que les événements n'aient confirmé aussi les pressentiments que me suggère mon âme, ces devins anxieux et toujours trop sûrs de mes propres malheurs. C'est ainsi que m'épouvantent les jeunesses de la jeune reine et du nouveau roi, l'âge et les projets de l'autre reine, les dispositions et les mœurs enfants des courtisans. Puisse-je être un faux prophète, mais je vois des agneaux confiés à la garde de nombreux loups, un royaume sans roi. C'est pourquoi, si le jour où Platon est parti de ce monde, le soleil a semblé être tombé du ciel, qui pourra-t-il arriver après la mort de Robert, qui fut par son talent un autre Platon, et qui n'est la cédé à qu'un autre roi en sagesse et en gloire, et dont la mort a en outre ouvert la voie à de si nombreux dangers. Donc, je crois que l'aspect le plus important de la fascination de Pétrarque pour Robert est lié à une forme de prophétisme, mais surtout de prophétisme virgilien. Comme je le disais, Pétrarque prend soin d'écrire à deux reprises que Naples, pour lui, était attaché au lieu virgilien. Dans plusieurs lettres, il fait allusion au fait qu'il voulait être pour Robert, nouvel Auguste, un nouveau Virgile. Son talent poétique ne pouvait pas être apprécié que par Robert, roi cultivé et sage. Donc Pétrarque n'arrive jamais à déclarer de manière explicite les souhaits de voir Robert couronné empereur, comme le faisait par exemple son ancien instituteur Convenevole da Prato, dont le Regia Carmina, que vous voyez ici, présente Robert comme le souverain invoqué par Rome et l'Italie, personnifié en femme à l'épreuve. Mais le juriste de Robert, déjà lors du conflit avec Henri VII, avait soutenu que le royaume angevin avait plein juridiction, une juridiction de la même nature que celle impériale. Après la retraite de Ludwig de Bavière, Robert s'est présenté comme le défenseur de l'Italie contre les invasions étrangères et virtuellement souverain d'une Italie unifiée. Remigio de Girolami, maître dominicain à Florence, affirmait par exemple que Robert était souverain des Zion à la fois du point de vue historique et moral, parce qu'il était roi de Jérusalem et parce qu'il était à nouveau seulement pour sa sagesse. Robert approuvait cette idéologie et avait commandé à Giotto des fresques où il était représenté parmi les deux grands hommes illustres et savants, Salomon et Samson. Pétrarque semble accueillir cette perspective alors qu'il écrit « Bien que je n'ignore pas que la puissance de Rome s'est développée davantage sous l'autorité de plusieurs que sous celle d'un seul, je sais toutefois que de nombreux hommes illustres ont été d'avis que l'état le plus heureux est celui qui se trouve sous l'autorité d'un prince juste. Ainsi semblent en désaccord l'autorité et l'expérience. Certes, dans la situation présente, où la discorde est si implacable, il ne fait absolument aucun doute que la monarchie est la plus apte à réunir et réparer les forces de l'Italie que la folie de la guerre civile a dispersées. Je suis au fait de la situation et j'avoue que la poigne d'un roi est nécessaire à nos maux. Je ne doute pas aussi que tu crois qu'aucun roi n'est pour moi préférable au nôtre. » Et il parle évidemment de Robert d'Anjou. Comme l'a démontré récemment Alexander Lee, l'Empire, à cause des conflits entre le pape et l'empereur, était devenu une entité politique au contour flou, dont plusieurs acteurs politiques pouvaient revendiquer une forme de légitimité. Donc, Robert l'a fait, mais Colladirian aussi profita du vide créé par la captivité avignonnaise pour déclarer que la souveraineté impériale devait être conférée par les Sénats et le peuple de Rome. À l'époque de guerre de Visconti, les communes n'eurent pas d'autre solution que de se tourner encore une fois vers l'empereur, à cause aussi de la menace des Turcs, sujet fort exploité par la littérature apocalyptique de l'époque. Pétrarque semble participer à cette évolution. Ses rapports avec Colladerians et Charles IV ont été largement explorés, mais les messianismes implicites dans sa relation avec Robert d'Anjou, la première figure à laquelle il rattache cet imaginaire de la souveraineté, mérite d'être approfondie. Dans l'ouvrage de Ozio Religioso, mais aussi dans le Rerum Memorandarum Libri, Pétrarque condamne les hommes de son temps, à l'exception de Robert, décrit en tant que positive car capable de se consacrer à l'Ossium, et qui aurait été capable de restaurer la paix en Italie. Une paix qui est toujours représentée à travers les caractéristiques de l'âge d'or de Virgile. Et Virgile constitue la véritable clé de voûte pour comprendre les rapports de Pétrarque avec les prophétismes et par conséquent le rôle que le prophétisme avait dans sa pensée politique. L'attitude de Pétrarque à l'égard du prophétisme a toujours été très ambiguë. D'un côté, il se montre à plusieurs reprises sceptique et méprisant face à la prétention d'anticiper l'avenir. En même temps, il y a une tentative consciente de se proposer comme quelqu'un qui était capable de prévoir l'avenir à travers une manipulation constante de la chronologie de ses épîtres. De plus, il adopte très souvent des tons et des images messianiques qui concernent, dans un premier moment, Robert, puis Colladerians, les Visconti aussi, et en dernier, Charles IV. La Renovatio Romae est au centre des attentes de Pétrarque et de la littérature prophétique médiévale. Dans ce cas, dans la littérature prophétique médiévale, la Renovatio Romae est identifiée avec la phase du combat entre l'Antéchrist et le dernier empereur, alors que pour Pétrarque, la Renovatio semble concerner exclusivement un terrain séculier. Donc, même si l'imaginaire impérial de Pétrarque peut être associé à des figures qui ne sont pas des empereurs, son attitude à l'égard de la politique assume des caractéristiques providentielles, sans s'encadrer toutefois dans le scénario d'un combat eschatologique et apocalyptique. Pétrarque est influencé par la littérature prophétique récente, mais il décide néanmoins de n'y faire jamais référence explicite, s'agissant de textes qui n'ont pas l'autoritas des classiques latins. Un seul cas fait exception. Il possédait au moins un texte, souvent négligé par le spécialiste, qui appartenait à cette tradition du prophétisme médiéval. Il a glossé, il l'a mentionné deux fois, exactement dans les œuvres que je mentionnais avant, le Rerum Memorandarum Libri et le De Ozio, précisément les œuvres liées à la consacration de Robert d'Anjou. Il s'agit d'un texte qu'on appelle le Vaticinium Sibylle Ritae, composé vers 1241-49 dans le milieu de la cour pontificale. Au centre de ce texte, très compliqué, mais qui a connu une large diffusion dans les décennies suivantes, est l'histoire de Rome, qui est vue comme une histoire de guerre civile, de présages et des symboles apocalyptiques qui revient très souvent dans le texte de Pétrarque. Pétrarque possédait ces textes dans les manuscrits BNF parisiens latins 8500. Ces manuscrits, tout en étant richement illuminés, est un manuscrit rempli, aux yeux des philologues qui se sont consacrés à l'étude de Pétrarque, par des textes médiévaux dépourvus de toute valeur. Par contre, il semble que Pétrarque, après avoir reçu ces manuscrits en 1342, l'aurait consulté de manière intense entre 43 et 45, alors qu'il était en train de composer le Rerum Memorandarum Libri. Dans ce traité, il s'épanche sur une grande variété de phénomènes liés à la divination et à la prophétie. Et malgré son scepticisme, il est prêt à avouer que les anciens romains croyaient aux miracles et aux sibylles, en leur attribuant une autorité remarquable et un rôle politique. Dans ce traité, Pétrarque ne mentionne que quatre sibylles. Pour ce qui est de la sibylle érythréenne, protagoniste de cet ouvrage apocryphe du XIIIe siècle, il écrit qu'il existe un petit livre que certains attribuent à cette sibylle, où elle anticipe l'histoire de Rome, y compris la venue du Christ et la formation des ordres mendiants jusqu'à la fin des siècles. Si dans ces textes, Pétrarque se montre un peu hésitant à l'égard de l'authenticité de ses livres, dans le De Hoc Religioso, composé quelques ans après, à partir de 1347, il affirme avec décision que les oracles de Sibylle ont été conçus par Dieu pour intégrer les révélations des prophètes afin d'annoncer la venue du Christ à travers des hommes et des femmes de toutes conditions. Mais écoutons ce que la Sibylle d'Érythrée prédit du Christ. Parlant de César Auguste sur le règne duquel le Christ allait naître d'une vierge, elle dit « Dès là, le taureau de la paix, par un doux mugissement, réduira au tribut les régions du monde. » Voilà qui concorde avec l'histoire évangélique, où l'on rapporte qu'on publia un édit de César Auguste pour faire un dénombrement de toute la terre. La même prophétesse évoqua tout d'abord par ces quelques mots la venue du Christ. C'est au jour de son règne qu'y viendra l'agneau céleste. Elle fait ensuite bien des révélations, pour autant qu'on puisse les entendre, sur les évangélistes, sur l'apôtre Paul et enfin sur quelques ordres illustres qui ont éclos ces derniers temps au sein de l'Église. J'ai voulu simplement évoquer ce qui touchait à la personne même du Christ et dont nous voyons l'accomplissement respecter l'ordre exact de la prophétie, à l'exception, bien sûr, du jugement dernier, que nous attendons assurer de sa réalité, mais non point de sa date. Ces prédictions, semble-t-il, étaient peu connues. J'ai donc pris soin de le citer ici. Elles sont sans nul doute de la Sibylle d'Érythrée, et je les ai scrupuleusement tirées de son livre. Donc, dans ce texte, pour témoigner la vérité des Sibylles, il mentionne plusieurs passages qui démontrent que leur message a été confirmé par les évangiles. Il ajoute ensuite qu'il y a d'autres prophètes païens, dont Virgile est un exemple. Et à propos de Virgile, il cite la quatrième églogue, mais aussi le passage de l'Énéide où il annonce la naissance d'Auguste. Dans la perspective de Pétrarque, l'histoire du christianisme peut alors confirmer les contenus de prophéties païennes. En conclusion, la stratégie de Pétrarque semble celle de profiter de la force du discours apocalyptique sans pourtant mettre au centre les éléments strictement eschatologiques. Il préfère, au contraire, exploiter la force de ces images pour développer un discours persuasif autour de l'arrivée d'un souverain capable de réaliser la Renovatio Romae, qu'il appartienne ou pas à une dynastie impériale. On sait que Robert Neuquet est le premier à être appelé Auguste par Pétrarque et qui réserve cet honneur dans la suite à Colla et à Charles IV aussi. Mais dans cette première phase de la pensée politique de Pétrarque, les discours prophétiques, si influents dans l'aventure de Colla di Rienzo et dans la perspective de Charles IV, est plutôt filtré à travers la culture classique et notamment à travers la figure de Virgile, poète, comme Pétrarque, qui avait contribué à la grandeur de Rome et du mythe d'Auguste. C'est grâce à ces derniers que des textes médiévaux si problématiques à l'époque pouvaient rentrer dans les cadres du classicisme de Pétrarque. Merci.